Deutsche Welle. L'arbre à palabre.
Auditeur de la Deutsche Welle, inconditionnel de l'émission Arbre à palabre, bienvenue, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition consacrée à la gestion de la mémoire du génocide de 1994 au Rwanda. Comme à chaque commémoration, le 20e anniversaire du génocide cette année, 2014, ravive les émotions, pas seulement au niveau du peuple rwandais et des autorités rwandaises. Sur le plan international, des messages de solidarité ont afflué, de même que des avertissements pour que des drames de ce genre ne ressurgissent. Mais n'est-il pas vrai que la probabilité que les événements passés se reproduisent ou non dépend de la façon dont chacun les interprète ? Autrement dit, dans quelle mesure la représentation et l'utilisation faite de la mémoire du génocide par les acteurs politiques, rwandais et étrangers, peuvent-elles favoriser un recommencement de ce drame ? C'est la réflexion qui va nous occuper durant ce temps d'antenne et nos invités sont tous bien outillés pour se livrer à l'exercice. Il y a Laurent Kongoli. Monsieur Laurent Kongoli, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Maître Laurent Kongoli, je suis avocat de formation et aujourd'hui je suis commissaire à la Commission nationale des droits de la personne du Rwanda.
Merci beaucoup. Je rappelle aussi que vous étiez ambassadeur du Rwanda près le Canada. Vous étiez aussi vice-président de l'Assemblée nationale du Rwanda. Yolande Bouka est en ligne de Nairobi au Kenya. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Yolande Bouka, je suis chargée de recherche pour la région des Grands Lacs et de l'Afrique centrale pour l'Institut d'études de sécurité à Nairobi.
Merci beaucoup. Et Gerd Hankel est ici en Allemagne avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Fréjus, je m'appelle Gerd Hankel, je suis juriste de formation, expert en matière de droit international public et droit international pénal, et je travaille à l'Institut de recherche sociale de Hambourg.
Et à la présentation de cette émission, je suis Fréjus Kenom. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Qui a fait quoi durant le génocide qui a meurtri le Rwanda entre avril et juillet 1994 ? La question revient quasi systématiquement à chaque évocation de cette partie de l'histoire. Et même 20 ans après, elle alimente la polémique et déclenche des émotions. Chacun y va de son commentaire et selon ses intérêts. Alors pour commencer, Maître Laurent Kongoli, vous êtes membre de la Commission nationale des droits de l'homme au Rwanda. Que pensez-vous de cette polémique qui a éclaté sur le rôle de la France et de la Belgique dans le génocide au Rwanda suite à une interview du président Paul Kagame au magazine Jeune Afrique, interview dans laquelle il met en cause ces deux pays.
Merci beaucoup. Moi, peut-être je ne vais pas entrer dans les polémiques, mais tout simplement, je vais essayer de répondre à votre question en me basant sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, spécialement en son article premier, qui dit que les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de guerre ou en temps de paix, est un crime de droit des gens, qu'elle s'engage à prévenir et à punir. Moi, je crois que tout ce que nous pouvons appeler polémique ou débat, etc., je crois que c'est lié même à la compréhension et surtout à l'application et au respect de cet article vis-à-vis de ce qui s'est passé au Rwanda et au moment du génocide et même après. Est-ce que la communauté internationale, est-ce que les pays spécialement ou en premier lieu les deux que vous venez de citer, ils se sont comportés en respect de cette disposition? C'est là le problème. Et ma réponse est bien sûr non.
Mais Yolande Bouka, comment réagissez-vous à cette première intervention de Maître Laurent Kongoli ? Vous êtes, je le rappelle, analyste pour l'Institut sud-africain d'études de sécurité. Que cherche à montrer le président du Rwanda à travers ces nouvelles accusations ? Ce n'est pas la première fois.
Écoutez, il faut aussi comprendre que la France a eu un rôle à jouer. Cependant, il faut nuancer les choses. Hein. De dire que la France est coupable de génocide, c'est un peu, je dirais, poussé. Il faut aussi considérer que le Rwanda était en guerre civile avant le génocide, et que cette guerre a repris une fois que le génocide a été entamé. Donc, je crois qu'il faut faire ça d'une manière nuancée. Cependant, comment suit cette polémique entre les deux parties, le gouvernement rwandais se disant « nous ne comprenons pas l'outrage de la France, ce sont des faits qui ont été établis », je pense qu'il y a un jeu politique qui se joue à Kigali que je ne comprends pas exactement.
Oui, vous soupçonnez un jeu politique. Est-ce que vous pouvez être plus précise, Yolande Bouka?
C'est une question de pointer du doigt. Qui est responsable pour le génocide? Qui va admettre en premier ses erreurs? Au niveau international, il est vrai que le parti au pouvoir en ce moment a quelques difficultés à vraiment jouer la partie d'un pays qui veut vraiment s'intégrer dans la communauté internationale. Ce n'est pas nouveau. Alors, le jeu qui se joue, ce n'est pas très clair.
Réaction de Gert Ankel, vous êtes chercheur à l'Institut allemand de la recherche sociale. Pensez-vous, M. Ankel, que les populations rwandaises sont d'accord avec ces réactions du président Paul Kagame?
Je pense que, dans sa majorité, le peuple rwandais n'est pas d'accord avec les propos du président Kagame. Parce que tout d'abord, on sait que la Belgique n'a pas activement participé au génocide. Donc la Belgique ne peut pas être visée de la façon que le président Kagame l'a visé. Donc, mais pour la France, bon, la situation est bien différente. Mais il ne faut pas oublier, et Madame Yolande l'a déjà mentionné, il ne faut pas oublier que le Rwanda à l'époque était dans une situation de guerre civile. Donc il y avait aussi pas mal de crimes commis par les FPR contre les Hutus, surtout dans le nord du Rwanda. Donc, moi, je pense que, pointant du doigt aussi farouchement la France, le président Kagame veut faire oublier, disons, la part du FPR à la préparation ou dans la préparation de la catastrophe ou bien au déroulement des faits en le peuple criminel.
Réaction, Laurent Kongoli?
Merci beaucoup. Je dois dire carrément que je ne suis pas d'accord parce que, déjà, parler de guerre civile, c'est un mensonge. C'est là, justement, le malentendu. Il y a eu génocide et il y a eu guerre. Il ne faut pas confondre une guerre civile. En certains moments, même certaines radios de l'Europe, moi, je suis rescapé du génocide, j'étais sur place, je sais tout ce qui s'est passé et ce qui se disait dans les médias. Revenir 20 ans après à parler de guerre civile, ce n'est pas correct.
Oui, Maître Laurent Kongoli, comment répondez-vous aux explications concernant un jeu politique que jouerait le président Paul Kagame, ressortir quand même ces accusations qui reviennent chaque fois lorsqu'on évoque le passé du Rwanda en ce qui concerne le génocide? Est-ce que c'est un jeu politique, une manipulation, on pourrait dire, de la mémoire du génocide?
Je ne pense pas, parce que le président de la République du Rwanda a interviewé par un journaliste au moment où on se préparait, on était déjà dans la commémoration du génocide. Il était de son droit, même de son devoir de chef de l'État, de parler des causes proches ou lointaines de ce génocide et parler de l'histoire de son pays, de notre pays, le Rwanda. Je ne pense pas que ce soit correct d'interpréter cet article de cette manière-là. Je crois qu'il faut accepter la réalité, il faut accepter les faits. Et moi-même, si je parle, un jour, je pense souvent d'introduire une action en justice personnelle contre la France. De non-assistance à une personne en danger.
Mais nous aurons l'occasion certainement de vous interroger, Maître Laurent Kongoli, sur votre histoire personnelle.
Mettre cette affaire, mettre ces relations seulement avec celui qui représente au peuple rwandais, le président Paul Kagame, il représente, il explique les préoccupations, les points de vue du peuple rwandais, des Rwandais et surtout, je dirais, même de rescapé du génocide, même la société civile.
Par rapport à ce passé du génocide, beaucoup d'experts, beaucoup d'observateurs de la vie politique au Rwanda ont souvent dit que le Rwanda se comporte un peu comme Israël dans le Proche-Orient, Israël à qui on reproche de mener des actions en toute impunité. Yolande Bouka, est-ce que le régime rwandais essaye d'utiliser un peu la culpabilité de la fameuse communauté internationale, se prévaloir donc de cette magnanimité et commettre certaines actions impunément?
Écoutez, c'est une question de, même si vous allez dans la théorie de relations internationales, un pays qui a été marqué par des atrocités comme les génocides, comme le Rwanda, a le droit de se protéger. Il n'y a pas de question là-dessus, c'est clair. Cependant, depuis quelques années, en fait, depuis la fin du génocide, le Rwanda a continué à utiliser la mémoire du génocide comme un outil pour culpabiliser la communauté internationale. Et avec raison, sur un certain point, la communauté internationale a failli à sa tâche de protéger les Rwandais en 1994. Cependant, les actions qui ont été commises pendant les 10 années suivantes en RDC sont aussi des crimes qui ont été commis par le parti au pouvoir au Rwanda. Quand la commission d'experts est sortie avec le rapport il y a quelques années, le gouvernement rwandais a menacé de retirer ses troupes de la Somalie si le rapport était publié. Je pense que, d'une certaine manière, la mémoire du génocide est instrumentalisée par le parti au pouvoir. Il n'y a pas de question là-dessus. Cependant, est-ce que le Rwanda a raison d'avoir des doutes sur la capacité de la RDC de vraiment éliminer le FDLR? Ce sont des questions qui sont absolument fondées. Cependant, je crois que la communauté internationale maintenant n'a plus la patience qu'elle avait, n'a plus la même culpabilité qu'elle avait 20 ans plus tard au niveau de leur conscience et disant, écoutez, il est temps de passer à autre chose et il est temps de passer à une solution politique et non simplement militaire qui déstabilise la région de la RDC.
Oui, Gert Rankel, est-ce que vous cautionnez cette thèse selon laquelle eh bien, le Rwanda ou le régime de Paul Kagame essaye de tirer profit au maximum de ce sentiment de culpabilité de la communauté internationale qui est accusée de n'avoir rien fait pendant le génocide?
Oui, mais tout d'abord, il faut voir que vu la dimension du génocide, il est bien normal que le passé est toujours présent, que dans la politique rwandaise, le génocide est toujours là, est toujours un fidèle accompagnateur, si je peux dire. Ça, c'est un. Et puis, deux, ont profité ou instrumentalisé le génocide à des fins politiques. Oui, le Rwanda le fait, clairement. Dès que ici, en Allemagne, dès qu'aux États-Unis, dès qu'en Grande-Bretagne, les critiques ou les hommes politiques se mettent à critiquer le Rwanda ou le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC, dans le trafic des minerais, etc., etc., là, le Rwanda dit non, vous n'avez pas le droit à nous critiquer. C'est vous qui avez failli, terriblement failli en 94. Donc, taisez-vous, c'est à nous de décider de notre propre politique.
Et est-ce que, Maître Laurent Kongoli, vous comprenez la chose de cette même façon? Est-ce que, dans la ligne de la diplomatie extérieure du Rwanda, les différents terrains sur lesquels le Rwanda agit, est-ce que vous sentez que le régime fait un amalgame entre ses propres intérêts et la mémoire même du génocide?
Moi, je pense que c'est pas le Rwanda qui fait l'amalgame. C'est peut-être quelques membres de la communauté internationale, même les dernières interventions. Si nous prenons le Never Again à lui-même, c'est un engagement qu'un peuple prend, que la communauté internationale doit prendre. N'oubliez pas que les tentatives de renouveler, de refaire de nouveau le génocide, ces tentatives ont eu lieu. Et nous pensons et nous sommes conscients comme Rwandais que ça peut encore se reproduire. C'est cette conscience de faire du Never Again une réalité qui fait que les Rwandais, le gouvernement rwandais, prennent des responsabilités. Et pour que le Never Again soit une réalité, il faut que tout le monde, y compris les membres de la communauté internationale, se disent la vérité. Quant aux enquêtes ou bien aux rapports sur le Rwanda et le RDC, je les lis très régulièrement. L'analyse que nous faisons souvent, c'est que ça manque de professionnalisme. On dit quels sont les témoins, comment est-ce que ces enquêtes sont menées. Mais le débat n'est pas là. Pour moi, ça, heureusement, j'ai l'impression que ça va se finir, ça va se terminer. Étant donné que maintenant la communauté internationale commence à balancer, c'est-à-dire à voir les choses ne pas d'un seul côté,
mais des deux côtés.
Mais est-ce que, Maître Laurent Kongoli, vous pensez que la politique promue par le régime de Paul Kagame, il y a une loi qui interdit le négationnisme, et donc partant de cela, il y a une certaine dureté vis-à-vis des opposants du Rwanda? Oui, nous remarquons que Maître Laurent Kongoli, la liaison vient de se couper avec Maître Laurent Kongoli, mais Guertrankel, est-ce que la politique de fermeté menée par le régime de Kigali sert l'impossibilité ou l'empêchement de, disons, de retomber dans des drames de ce genre?
Moi, personnellement, je ne pense pas qu'un tel drame puisse se reproduire. Moi, je pense qu'on a vraiment tiré les leçons du drame rwandais, qu'aujourd'hui, la communauté internationale sait agir à temps, comme elle a fait preuve récemment en intervenant à temps en République centrafricaine. Donc moi je pense que un génocide comme le génocide qui s'est produit au Rwanda ne se reproduira plus. Bon, c'est pour ça que ce Never Again, oui, c'est une
un slogan.
Ouais, c'est un slogan, c'est un vœu qu'on tiendra.
Yolande Bouka, comment réagissez-vous à cette question? Est-ce que la politique du régime en place à Kigali permet que ces événements ne se reproduisent pas?
Écoutez, ce n'est pas une question de politique qui va aider le Rwanda à prévenir le génocide. Oui, d'une certaine manière, premièrement, il y a deux points importants. Hein. Premièrement, oui, la communauté internationale a tiré ses leçons de 94. Cependant, si on regarde même en République centrafricaine ou si on regarde au Soudan, les pays occidentaux ont maintenant décidé de promouvoir l'intervention africaine, ce qui est une bonne chose. Cependant, on voit aussi qu'il y a un manque de coordination par rapport à la réaction de nos pays africains. Alors, ce qu'on continue à voir en République centrafricaine et au Soudan du Sud, pardon, c'est une continuité des crimes qu'ils ont perpétrés par des groupes armés. Donc, il n'y a pas une protection complète au niveau du Rwanda quand on met des lois contre le négationnisme. C'est une chose. Cependant, quand le négationnisme inclut pouvoir avoir le droit de dire « je suis Hutu », et j'ai perdu des membres de ma famille pendant la guerre civile, parce qu'il y a eu guerre civile. Hein. Le traité d'Arusha, c'était pour mettre fin à la guerre civile. Alors, il faut admettre, quand on parle de vérité, il y a eu plusieurs épisodes de violence au Rwanda, et il faut les reconnaître. Alors, retourner au génocide de 1994, je ne pense pas. Mais, à un moment donné, il y a une possibilité que les gens se révoltent contre le gouvernement, ouais, qui est un gouvernement qui tient le pouvoir très fermement. Ouais. Ce ne sera pas nécessairement au niveau ethnique, hein. Ouais. Ce sera au niveau aussi politique.
On nous signale que Maître Laurent Kongoli nous a de nouveau rejoint. Maître Kongoli, ma question c'était de vous demander si se déroule la politique du régime de Kigali vis-à-vis des opposants, si cela ne risque pas de replonger le pays dans les drames qu'on avait connus en 94.
Non, j'en pense pas, parce que au Rwanda, je crois qu'il y a un cheminement et une façon de faire qui a donné de très très bons fruits, c'est le dialogue. Le dialogue vraiment très large possible, au cours duquel les décisions se prennent, et ces décisions, surtout qui sont basées sur la vie sociale des gens, sur le développement économique. Et c'est d'ailleurs là où quelques membres de la communauté internationale travaillent bien avec le Rwanda, c'est que quand il y a un projet de développement, un projet social bien clair, souvent quand les gens me demandent ou bien quand j'explique ces choses, je dis qu'au Rwanda, maintenant, nous avons trois véritables révolutions sociales, à savoir le mutuel de santé, avoir accès à la santé, à savoir l'éducation, au moins gratuite, au moins 12 ans d'école, et ensuite l'enregistrement de toutes les terres, un petit lopin de terre. C'est vraiment ces éléments-là catalyseurs qui font, oui, qu'au niveau interne, il y a quelque chose qui bouge.
Les belles prouesses opérées par le Rwanda suscitent beaucoup d'admiration, effectivement, mais est-ce que cela permet d'être rassuré?
Moi, je pense que chaque année, il y a le dialogue, il y a même des dialogues, et les résultats positifs, même ceux qui sont à l'étranger, ils ont participé à ces dialogues. Et si quelqu'un veut entrer dans ce dialogue, veut faire quelque chose de bien pour le peuple rwandais, il y a ces structures légales qui sont là, que tout le monde peut utiliser
pour donner son idée
Oui.
et faire avancer le pays, participer à son développement et à cette paix sociale, à cette sécurité du
Oui.
pays.
Gerd Frankel, on a remarqué, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, un changement d'attitude hein, de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda qui, pense certains, a longtemps joui des grâces de certains pays comme les États-Unis. Jusqu'où peut aller cette fameuse communauté internationale? Jusqu'où peut aller la pression qui commence à naître maintenant sur le régime de Kigali?
Le cas échéant, la réaction pourrait être de stopper net toute aide financière pour obliger le Rwanda à respecter les normes du droit international, à respecter l'intégralité du territoire congolais. Donc, je dirais que ce serait une mesure extrême, mais on a déjà, en 2012-13, suspendu l'aide financière.
Mais on a vu la réaction du Rwanda qui a rapidement créé un fonds pour, disons, faire participer les citoyens au financement des projets de développement du pays.
Oui, ça c'est vrai. Là, on est très innovatif et on a un peu, si je peux dire, on a un peu utilisé cette démarche de la communauté internationale ou des pays donateurs pour dire que nous, on ne se laisse pas faire, on sait se protéger,
on
sait se défendre. Et encore une fois, là où l'étranger pense qu'on a besoin de leur approbation, non, on n'accepte plus ça. Ça appartient à des temps révolus. Mais par contre, pour revenir sur un autre aspect très important, parce que ça explique bien l'atmosphère qui règne aujourd'hui au Rwanda, vous parliez tout à l'heure de dialogue. C'est vrai, il y a souvent un dialogue, mais ce n'est pas un dialogue ouvert. C'est un dialogue où le résultat de ce processus de dialoguer est déjà connu d'avance. Il y a un narratif officiel qu'il faut accepter. Et dès qu'on ne l'accepte pas, là, il y a un très grand risque de se retrouver en prison.
Le Yolande Bouka, comment est-ce que vous pensez que la communauté internationale peut maintenant réussir à agir sur le régime de Kigali vis-à-vis du traitement des opposants, vis-à-vis aussi des velléités sous-régionales de ce pays dans les Grands Lacs?
Le pouvoir de la communauté internationale est très réduit parce que bon, le Rwanda dépend toujours à je sais pas, 30 ou 40% du financement international, mais plusieurs de ces donateurs donnent à des projets directs, hein, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Donc, il faut considérer si jamais un pays comme la Grande-Bretagne décide de couper tout financement au Rwanda, ce ne sera pas nécessairement le gouvernement qui va en souffrir, mais ce sera la population. De deux, il faut aussi considérer qu'il y a aussi des acteurs régionaux. Il n'y a pas que l'Occident à considérer. Il faut regarder les acteurs régionaux, la Tanzanie, l'Ouganda, la RDC. Quel est leur rôle à jouer dans la stabilisation de la région? Au niveau domestique, le Rwanda est un pays souverain. Il ne faut pas l'oublier. Mais un pays comme les États-Unis doit aussi considérer ses intérêts et ce qui se passe en Somalie, la contribution des troupes militaires du Burundi, par exemple, ou du Rwanda, ou de l'Ouganda sont importantes. Donc, au niveau domestique, au niveau du pays intérieur et de la démocratisation, de l'ouverture de l'espace politique, je ne sais pas si la communauté occidentale a beaucoup à dire sur ce qui se passe au Rwanda.
Oui, très rapidement, Gerd Frankel, avant de donner la parole à Maître Laurent Kongoli, dites-nous, est-ce que 20 ans après le génocide, le dossier du Rwanda est toujours très dur au niveau des Occidentaux, des grandes puissances, parce qu'il faut faire attention pour ne pas tomber dans le négationnisme non plus. Il y a eu un génocide qui a été perpétré, effectivement.
Oui, bien sûr, là, il n'y a pas de doute. Il y a eu un génocide qui a été perpétré. Il y a eu, oui, il y a toujours la honte de la communauté internationale pour avoir failli. Il faut en tirer les conséquences.
Maître Laurent Kongoli, nous sommes à la fin de cette émission. Comment est-ce qu'on peut éviter la manipulation de la mémoire du génocide sans tomber non plus dans le négationnisme? Est-ce que c'est difficile?
Moi, je crois que je n'ai pas voulu répéter les mots manipulation, utilisation, tout ça, parce que je vous assure que pour nous, Rwandais, et spécialement rescapés du génocide, c'est quelque chose qui nous blesse. Ce n'est pas de la manipulation. On essaie de dire les choses telles qu'elles se sont passées. Il ne faut pas continuer à blesser et réaviver les blessures. Ça ne sert à rien. Ça ne construit rien du tout.
Mais ce sera la fin de cette émission Abrapalabre que nous avons consacrée aujourd'hui à la gestion politique de la mémoire du génocide de 1994 au Rwanda. Nous étions avec Laurent Okongoli, avocat de profession, ancien ambassadeur du Rwanda près le Canada, ancien vice-président de l'Assemblée nationale et actuellement membre de la Commission nationale des droits de la personne du Rwanda. Yolande Bouka est chercheuse spécialiste de l'analyse des conflits et de la prévention des risques à l'Institut sud-africain d'études de sécurité. Et Gert Trankel est juriste, expert à l'Institut allemand pour la recherche sociale. Il était en ligne de Hambourg, ici en Allemagne. Merci beaucoup d'avoir tous participé à cette émission, à la présentation Fréjus Kenhomme. Nous nous retrouvons dans une semaine pour un autre sujet sous l'arbre à Palabre.